Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde émission Osons la philosophie avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, nous faisons la seconde partie de l'émission que vous avez intitulée « La démocratie, où en sommes-nous ?» Et c'est plus que d'actualité quand on regarde ce qui se passe dans de nombreux pays. Et comme d'habitude, Françoise, je vais vous demander de résumer pour nos auditeurs la première émission et ensuite vous enchaînez.
Oui, alors j'enchaîne, mais j'enchaîne d'abord sur une préoccupation. Nous devons prendre acte. À la fois dans notre expérience de citoyen, mais aussi sur le plan, je dirais, conceptuel, et c'est la tâche des philosophes, nous devons prendre acte de l'actuelle vulnérabilité des démocraties libérales. J'entends par démocratie libérale la plupart des régimes européens, car il s'agit aussi de l'Europe, cette Europe des Lumières qui a instauré, je dirais, dans la vitalité démocratique, les principes de droit. Pour mémoire, je rappelle l'origine grecque de la démocratie, à la fois du mot et, je dirais, de la chose. Hein. Donc, qu'est-ce que la démocratie ? Elle suppose trois principes : la liberté, alors, l'égalité devant la loi, isonomia, et surtout, ça nous intéresse parce que c'est ça qui ouvre au débat parlementaire encore aujourd'hui. Le troisième terme, c'est Goria, peu importe, c'est le droit égal de tout citoyen à la parole. Hein, dans la mesure, bien sûr, où il n'y a de vie démocratique que dès lors qu'il y a une délibération en commun. Qu'elle soit sur le mode de la démocratie directe, comme c'était le cas à Athènes, ou que ce soit sous le mode actuel et très nécessaire de la démocratie parlementaire, comme j'en parlais à l'instant. Venons-en maintenant à l'état de droit moderne. C'est bien lui qui est ébranlé. Alors, ébranlé comment ? Et par qui ? Et par quoi ? Peut-être avant même de définir l'état de droit moderne, il faut rendre compte de notre incrédulité devant les phénomènes qui se déploient devant nous, mais aussi de notre désarroi. En effet, les démocraties, en particulier je parle démocratie libérale européenne, sont quasiment prise d'assaut par des démocraties, même l'une au cœur de l'Europe, une démocratie illibérale, et par maintenant des systèmes de vastes empires autocratiques, puisque nous le voyons avec l'accord, parlons des choses très précises d'hier soir, Trump-Poutine, nous le voyons avec un accord de paix, entre guillemets, pour l'Ukraine, qui passe complètement au-dessus de la souveraineté des États nationaux européens.
Oui, ils font fi absolument des institutions.
Tout à fait. Les institutions, le droit international est bafoué et méprisé fondamentalement, supposément pour son inefficacité, le cadre de la démocratie.
Hein. Oui, c'était, hier nous étions le 13 février et c'était aussi, moi j'étais aussi atterrée par le discours de Musk dans le bureau ovale de
dans
la Maison Blanche,
oui.
Avec son gamin de calage, en débraillé avec une casquette. Et il n'est pas élu, je l'ai déjà dit dans la première émission.
Alors peut-être revenons.
Oui, mais
on est dans cette configuration-là. Alors, je sais que vous avez eu quelques retenues devant la signification du mot de démocratie illibérale.
Je
m'attacherai à définir ce mot qui caractérise, nous allons le voir, des systèmes démocratiques, certes, parce que le peuple, la souveraineté du peuple est acquise, mais dans ces démocraties illibérales, au nom du peuple, on suspend toutes les règles de droit de la démocratie libérale classique.
Est-ce que ce n'est pas qu'un changement de nom ou est-ce que c'est vraiment pour mettre en place un nouveau régime ?
C'est un nouveau régime.
C'est un nouveau régime.
Ce nouveau régime, et c'est inquiétant parce que ces nouveaux régimes gagnent en Europe aussi.
En pratiquant l'élection, en fait. Donc, en ayant une légitimité.
Oui, j'y reviendrai. Je disais donc, et je me résume encore, pardonnez-moi, je disais donc à la séance précédente j'énonçais quelles étaient les caractéristiques de l'état de droit moderne, l'état de droit. Hein. Donc, l'état de droit suppose évidemment que la souveraineté revienne au peuple, c'est-à-dire la puissance publique. Hein. La puissance publique, par exemple, de décider de l'avenir d'une nation, état-nation en principe. Hein. Donc, ce que garantit l'état de droit moderne, c'est évidemment et en premier lieu historiquement la protection du citoyen de l'arbitraire du pouvoir. C'est bien le minimum. Hein. Elle garantit aussi, cette norme de droit garantit aussi évidemment l'égalité des citoyens devant la loi et la liberté. La citoyenneté s'entend très essentiellement par cette capacité de contribuer à la vie de l'État. Mais, on revient au tout début, cela suppose la liberté d'opinion, de libre débat, et de manière exemplaire, la liberté de la presse. Alors, j'avais fait une remarque que je réitère, tout État dans lequel n'est pas respecté la liberté de la presse n'est pas un État démocratique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces libertés de la presse, dans de très très nombreux pays, alors aussi bien d'anciennes démocraties pour ce qui concerne ces grandes configurations politiques impérialistes, ces droits de la presse sont l'objet de régressions ou s'exercent sur les journalistes même une très violente répression.
Et aux États-Unis aussi ?
Il y a une anecdote qui justifierait les atteintes aux droits de la presse aux États-Unis. Mais ce qui concerne aussi ces pays démocratiques, c'est qu'on évite la sanction des gouvernements, qui est tout à fait illégitime et injuste, par l'autocensure.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Dramatique.
Oui, c'est tout à fait dramatique. Bon, on voit bien dans la presse américaine, dans le New York Times, par exemple, il y a des effets d'autocensure manifestes. La liberté de la presse, c'est vraiment très, très important. Donc, je reviens à un thème que j'avais ouvert aussi, enfin que nous avions ouvert, pardon, avec les remarques de Montesquieu. Montesquieu, comme je vais y venir, Tocqueville, deux grands penseurs de la démocratie en France, Montesquieu 1748 et Tocqueville, j'ai oublié, 1853, l'un comme l'autre marquent leur défiance et trouvent des parades à ce que peut comporter d'extrême danger la souveraineté du peuple sans limite. Alors, vous vous souvenez que Montesquieu préconise, en lisant la Constitution d'Angleterre, la formule de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Citation. Il s'agit essentiellement, du reste, que la décision politique et la décision des juges soient chacune d'entre elles séparées de l'autre. Hein. Et en particulier, alors j'insistais sur la liberté de la presse, mais j'insiste surtout maintenant sur l'indépendance de la justice. Mmh. Car l'indépendance de la justice, comme la liberté de la presse, est véritablement la garantie des libertés individuelles des citoyens, mais de la liberté publique en général. Les dangers donc, d'une tyrannie de la majorité, les dénoncer, ce n'est pas nouveau, puisque nous avons cela aussi chez les philosophes grecs. Platon, par exemple, a plus que des réticences, même une véritable répulsion pour ce que peut être une populace à la tête d'un État. Danger de la tyrannie de la majorité. Tyrannie de la majorité, ce mot est emprunté à Tocqueville. Et je vais vous proposer une lecture de Tocqueville une ou deux lectures de Tocqueville, Alexis de Tocqueville donc, ou Alexis de Tocqueville, tiré de la démocratie en Amérique. Tocqueville 1, chapitre 7. Tocqueville donc commence ce chapitre par un principe. Il est de l'essence même des gouvernements démocratiques que l'empire de la majorité y soit absolu. La référence est la démocratie américaine, en cours de consolidation. Mais je propose ceci. Un peu plus tard, c'est le chapitre qui concerne la tyrannie de la majorité. Je lis. « Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ?» Donc, ce que va essayer de montrer, finalement, comme Montesquieu, hein, c'est que la puissance publique, la souveraineté démocratique, celle du peuple, donc, doit être au moins modéré, sinon limité. C'est surtout l'idée de modération qui l'emporte ici. Elle existe aussi chez Montesquieu, hein, c'est un mot de Montesquieu. Et voilà comment il continue. À titre personnel, je pense donc qu'il faut toujours placer quelque part un pouvoir social supérieur à tous les autres, mais je crois la liberté en péril lorsque ce pouvoir ne trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-même. La toute-puissance me semble en soi une chose mauvaise et dangereuse, bon, à moins qu'il ne s'agisse de la toute-puissance de Dieu. Je ferme la parenthèse. Hein. Et voici ce qui m'intéresse, citation. « Il n'y a donc pas sur terre d'autorité si respectable en elle-même ou revêtue d'un droit si sacré que je voulusse laisser agir sans contrôle et dominer sans obstacle. Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu'on l'appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans une monarchie ou dans une république, je dis, c'est là le germe de la tyrannie et je cherche à vivre sous d'autres lois. »
C'est d'actualité. Hein.
D'ajouter ceci aussi à propos des États-Unis, il n'y a pas de liberté d'esprit en Amérique. Alors pourquoi ? Je n'ai pas le temps de développer. Pourquoi ? Parce que précisément, aux États-Unis, il y a une force, je dirais, idéologique de la masse majoritaire. Et nous le constatons aujourd'hui, ce n'est pas inéluctable, puisqu'il y a une constitution américaine qui devrait préserver la politique américaine de cela. Pratique constitutionnelle qui, à l'heure actuelle, est suspendue.
Enfin, il y a des juges qui personnellement s'élèvent, mais qui sont très vite évincés.
Nous allons voir. Hein. Alors, dans un deuxième temps, après cette remarque qui démontre qu'il ne suffit pas qu'il y ait un vote majoritaire pour que s'instaure une démocratie. Encore une fois, la question de l'état de droit est très très nécessaire.
Hein. Oui, c'est pour ça que vous avez choisi le buste de Périclès comme visuel et non pas des mains qui se lèvent
voilà.
Pour voter.
Exactement.
Le vote ne suffit pas.
Exactement, le vote ne suffit pas.
Je vous propose peut-être, on n'a pas eu le temps dans la première émission de faire une pause musicale et petit clin d'œil à la France, vous parlez des démocraties européennes. La France est symbolisée par Marianne et Michel Delpech l'avait chanté « Que Marianne était jolie ». Merci Hugo.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira. a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu les printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus, et le 5e à présent qu'elle ne reconnaît plus. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasse le cœur de Paris en criant dessus les toits.
Alors, sur Radio Alliance Plus, après ce petit éloge de Marianne, de la République française, Françoise, vous continuez donc votre démonstration sur les dangers encourus actuellement par la démocratie.
En effet, nous parlions la semaine dernière, et la référence est bien sûr à toutes les études philosophiques grecques sur le politique. Nous parlions de la détérioration, de la transformation, de la corruption, puisque tel est le mot, de la démocratie. Or, l'une d'entre elles nous menace, nous particulièrement, c'est très exactement le surgissement au cœur même de l'Europe de ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Alors, je sais que ce terme de démocratie illibérale, je précise, illibéral, I, deux L, I, B, E, R, A, L, E. Illibéral. Hein. Ce cas particulier est ce mot peut-être nouveau qui a été inauguré par un journaliste politique américain dans les années 90. Ce terme est en train de définir un nouveau régime. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce régime et en quoi est-il si dangereux ? Il est dangereux parce qu'il mine de l'intérieur la démocratie fondée sur le droit. Je me réfère à ce propos à une étude de l'Institut Jacques Delors qui a pour titre précisément « Démocratie illibérale ou autoritarisme majoritaire ». Alors, nous sommes évidemment dans la lignée très exactement de ce que définissait Alexis de Tocqueville comme la tyrannie de la majorité. Qu'est-ce qui caractérise les démocraties illibérales ? Bon, alors avant même d'en donner la définition, nous pouvons penser à un exemple qui est celui de Viktor Orban en Hongrie. Alors, le mot est inventé, mais comme stigmatisant. Mais très classiquement, ce stigmate, toujours négatif bien sûr, et inversé, et on lui accorde une valeur positive. C'est-à-dire que Orban se revendique justement d'être le maître de la démocratie illibérale. Et il a quelques compagnons dans d'autres nations que je nommerai pas.
Voilà. Mais le mot démocratie semble rassurer, et on ne fait pas attention à la suite.
Oui, alors je vous propose la citation finale, une des citations finales de cette longue analyse que je trouve tout à fait passionnante. Elle est faite par par l'Institut Jacques Delors, qui est un institut de réflexion politique, comme le nom l'indique, européen. Voici. La logique des démocraties illibérales revient à donner le pouvoir sans borne à la majorité. Pouvoir sans borne, hein, nous, on voit. je reprends la suite de la phrase, où je recommence. La logique des démocraties libérales revient à donner le pouvoir sans borne à la majorité incarnée par un leader charismatique.
Oula.
La notion de leader charismatique est empruntée à Max Weber et désigne évidemment l'homme politique qui séduit les foules par une sorte d'autorité, d'autorité, je ne dirais pas naturelle, parce qu'elle peut être très, 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 très travaillée.
Oui, mais très voilà. Construite.
Oui, très construite, oui. Donc, la logique des démocraties illibérales revient à donner le pouvoir sans borne à la majorité incarnée par un leader charismatique prétendant détenir le monopole de la volonté populaire. Et protéger à ce titre les nationaux contre les étrangers. Et il me semble que cette définition montre bien comment, justement, il y a dans la démocratie libérale la fonction du chef, je dirais presque du Führer, qui consiste à prétendre détenir justement dans sa personne, incarner dans sa personne la souveraineté. Auquel cas, toute espèce de dissidence est écartée, supprimée, persécutée. Bien entendu, il ne s'agit pas simplement de dissidence politique. Les minorités de quelque sorte que ce soit les minorités ethniques ou les minorités, comme on dit maintenant, de genre. Sont... violemment interpellés, voire persécutés. Et bien entendu, les étrangers doivent être rejetés de la nation. Dont la définition...
ce sont tous les décrets en fait, que fait Trump depuis qu'il a été nommé président.
Oui, c'est-à-dire que tout de même, ces démocraties libérales supposent un État-nation fondé sur l'ethnicité.
Voilà. Et je rajouterais, alors moi ce qui me terrifie, c'est que certains hommes politiques américains disent que Trump est l'élu de Dieu.
Oui.
Après, surtout son attentat raté, là, élu de Dieu, oui, c'est ça, plus que du charisme.
Oui, ça. Alors ça renforce le caractère charismatique, mais on sait quelle est la cointance entre l'extrême droite américaine, l'alt-right américaine, et un certain fondamentalisme des sectes protestantes. Bon, là, je ne veux pas m'étendre sur ce point. Simplement ceci. Vous évoquez, Sylviane, à juste titre, le cas stupéfiant pour nous de la dislocation interne de l'appareil d'État ou de l'appareil d'État fédéral américain. Il faut ajouter à cela la confiscation de l'exercice du pouvoir par une oligarchie. Le mot oligarchie revient aussi de la pensée grecque. Alors, je voudrais vous lire la déclaration de Joe Biden en le 15 janvier 2025, juste avant l'intronisation de Trump. Et cela dit tout. Aujourd'hui, je cite, « Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême qui menace littéralement notre démocratie, nos droits fondamentaux et la liberté. Et de surplus, la chance ou bien la possibilité pour chacun de s'en sortir. » Je crois que tout
il
est
résume,
dit.
Il résume, tu vois.
Tout est dit. Alors évidemment, il ne nomme pas Trump et il ne nomme pas Musk. Alors je rappelle qu'a été créée très artificiellement une instance qui s'appelle le département de l'efficacité gouvernementale, dirigée par Elon Musk, son groupe de jeunes techniciens de la Silicon Valley, et leur mission, alors qu'ils ne sont pas élus et qui n'ont aucune exigence, enfin, n'est pas exigé, l'obligation naturelle dans le système américain d'être confronté à la discussion. Cette agence a pour fin de, elle le fait effectivement, sous prétexte de simplifier ou surtout d'épurer financièrement les appareils d'État américains, elle a essentiellement pour fonction de détruire. Détruire tous les systèmes de solidarité. Et j'ajoute que ces jeunes gens ont eu accès aux données bancaires et aux données fiscales des citoyens américains, ce qui est évidemment totalement contraire à la loi. C'est et pour l'instant, le pouvoir des juges est très très mesuré.
Alors de toute façon, j'écoutais ou je lisais les journaux hier que même si c'est interdit maintenant, toutes ces données ont déjà certainement été
vendues. Bien sûr. Mais c'est une...
Il y a un décalage entre l'acte immédiat et puis
tout
après les mesures légales pour
tout à
les
fait.
Interdire.
Mais l'état de droit est suspendu. J'ajouterai encore que ce n'est pas un hasard s'il y a une complicité entre... le nouveau dispositif impérial et autoritaire américain avec l'autocratie impérialiste par excellence qui est celle de la Russie.
De Poutine, oui.
Alors,
oui, impérialiste, l'Ukraine pour Poutine.
Mais surtout, c'est le mot d'autocratie qu'il faut retenir. Là aussi, c'est un nouveau mot. L'autocratie, alors ça, c'est pas du grec. Le mot d'origine est d'origine grecque. Il est employé une fois, je crois, chez Platon. Mais le mot autocratie désigne bien la vieille tradition autocratique russe.
Mmh. Oui. Donc, on voit pourquoi Trump revendique le Mexique, le Groenland, le Groenland leur appartient, le Canada, etc. C'est vraiment.
Oui, il y a ce mélange. Le mépris du droit. Qui bride les démocraties libérales s'accompagne du mépris du droit international. Alors, on ne va pas donner des exemples, ils sont foultitudes. Alors, nous sommes devant une situation très, très délicate.
Alarmante.
Très, très alarmante.
Et est-ce que le pouvoir de réaction a des outils, a des moyens? Parce que quand on voit que... Bon, on sait ce qui se passe en Russie avec le... Comment dire, le chapeau de peur qu'il y a sur la population. Est-ce que aux États-Unis, les Américains peuvent réagir?
Nous sommes sous l'empire, sous le règne de la force, non pas de la violence, la force. Les rapports sont des rapports de force, et les fameux deals ne sont rien d'autre que des rapports de force, mais vraiment rien d'autre. Je veux dire, dans le deal au sens Trump, il n'y a pas de négociation. Il n'y a aucune négociation.
On parle du businessman. Il dirige les États-Unis comme il dirige.
Oui, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Alors, c'est vrai aussi que le principe américain actuel des libertariens, c'est bien de diriger l'État comme on doit diriger
une entreprise.
En se permettant justement de faire des coupes sombres et de licencier, puisqu'on a licencié, on a beaucoup licencié.
Donc, aucun élément social, aucun élément humain, aucun... Eh bien, écoutez, on va terminer sur cette notion plus que alarmante.
Oui.
Merci à vous de nous résumer, c'est pas un mot, mais de nous avertir. Merci à vous et
merci.
À bientôt.
Merci de m'écouter.